nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Shakespeare était-il Shakespeare ? Homère était-il Homère ? Bon, oublions Homère. Il ne faut, paraît-il, pas trop penser à Shakespeare, on peut devenir fou, en Angleterre tout du moins. Voici une conférence donnée à l'occasion du 4e centenaire de l'écrivain, conférence dont Prospero est le personnage central, conférence dans laquelle Roger Baudard, de l'Académie royale de Belgique, affirmait, pour notre plus grande satisfaction hexagonale, que Shakespeare avait pillé Montaigne. Le secret de Shakespeare, première diffusion sur France Culture, le 4 mai 1965.
Une caricature récente d'un hebdomadaire anglais, Le Punch, montre Shakespeare échoué au bord d'une table de travail, d'une table de taverne où il travaillait. Sans doute la taverne du Globe, au milieu d'amis ivres-morts et perdus dans les nuages du tabac, dans les vapeurs de l'alcool, Shakespeare soupire. Parfois, je me demande si j'existe. Cette question, nombreux sont ceux qui se la sont posée au moment où Shakespeare, semblait-il, existait. Et plus nombreux encore, ceux qui n'ont pas connu Shakespeare, et aujourd'hui encore, cette question, ils se la posent. Shakespeare a-t-il vraiment existé ? William Shakespeare, né à Stratford le 23 avril 1564, mort peut-être le 23 avril aussi, ou peut-être le 25, 1616, comédien, poète dramatique, auteur de 35 pièces, de 150 sonnets. Shakespeare est-il un mythe ou une réalité? Ou plus exactement, serait-il deux réalités? Le comédien que nous connaissons par quelques très rares documents, d'une part, et d'autre part, quelques personnages mystérieux, quelques hauts personnages qui, pour des raisons sans doute politiques, se seraient cachés derrière ce visage, derrière cet homme de paille, derrière ce prête-nom, ce comédien Shakespeare. Hamlet, le roi Lear, les sonnets, Othello, serait-ce l'œuvre non de ce comédien, mais l'œuvre par exemple de Bacon, ou bien de son frère Anthony, ou bien de Raleigh, ou bien du comte de Rutland, ou bien du comte de Durby, ou du comte de Southampton, ou du comte d'Oxford, ou de Marlowe, ou de quelques autres encore. Nous nous trouvons, vous le sentez et vous le saviez déjà, devant un problème insoluble, devant un problème grave, sérieux. Voici un enfant trouvé, un enfant considérable, un enfant Shakespeare dont on ne connaît pas le père. Bien des spécialistes disent que Shakespeare n'était pas Shakespeare. Comme d'autres spécialistes ont dit que Homère n'était pas Homère. Vous connaissez les vers de Peggy. Cette ville prétendait avoir vu naître Homère, mais il n'était pas né dans les sept à la fois. On a dit que Napoléon n'avait pas existé, qu'il était un mythe solaire. On a dit que Victor Hugo n'avait pas existé. Jean Cocteau, qui a tout dit Jean Cocteau disait, Victor Hugo, c'était un fou qui croyait être Victor Hugo. Et peut-être demain dira-t-on la même chose de Jean Cocteau. Nous nous trouvons devant le problème shakespearien par excellence, être ou ne pas être. Être ou ne pas être dans la mesure où l'on est vraiment, où l'on est intensément. Shakespeare a existé à ce point que les historiens de la littérature, ces historiens qui parfois en sont un peu les eunuques, ils la conservent, mais ils ne la fécondent pas. Shakespeare existe à ce point que les historiens doutent de son existence. Eh bien, je ne répondrai pas aujourd'hui. Je ne me sens pas à la mesure aujourd'hui de répondre à leurs doutes. Trop d'historiens ont répondu avant moi, et si nombreux que l'un d'eux, un homme éminent mais non dépourvu d'humour, a osé dire que dans les maisons de santé en Angleterre, la deuxième catégorie en importance est celle des malades devenus fous à force de penser à Shakespeare. Abandonnons, si vous le voulez bien, ces faux problèmes. Ces faux problèmes en cherchant le vrai Shakespeare. Le vrai Shakespeare, non dans les archives, ni dans les enquêtes, mais là où il se trouve vraiment dans son œuvre. Écoutons parler les personnages de ces drames, de ces comédies. Malgré leur nombre, malgré leur prodigieuse diversité, Shakespeare, plus encore que Balzac, faisait concurrence à l'état civil. C'est entendre toujours la même voix, une seule voix, un seul accent, celui d'un seul homme qui s'avance, masqué, mais que l'on reconnaît toujours. Qui va là dans la nuit obscure ? Un homme dont l'âme est comme le temps, fort inquiète. De qui est ce bref dialogue, sinon de l'auteur du Roi Lear ? Ou ceci : je l'ai trouvé dormant au pied d'un arbre, comme un oiseau tombé du nid. Que signifie exactement Hamlet ? Que signifie Prospero ? Plus le personnage prend de l'ampleur et plus il s'obscurcit. On ne peut même plus dire qu'il est ambigu. Les réponses possibles sont plus nombreuses que les questions soulevées. Et quand le drame, ou bien quand la comédie se clôt, le problème reste sans réponse. La fin de la tempête fait penser à une porte dérobée. Hamlet ne résout rien. La fin d'Hamlet nous montre quelqu'un qui disparaît, qui éclate. Nous tournons sans cesse, nous tournons autour de lui, sans être certains de l'avoir jamais cerné. Il y a toujours une issue invisible par où il nous échappe. On ne le saisit pas plus qu'un fantôme, il fuit en traversant les murs. Shakespeare ne se montre pas, ou se montre fort peu, dans son œuvre. Il n'est ni un homme de confidence, ni même ce qu'on pourrait appeler un moraliste. Il est peut-être un portraitiste. Il regarde les autres, il les dit. Comme dit Montaigne, « Je ne forme pas l'homme, je le récite. » Shakespeare a pillé Montaigne et il a repris cette sagesse, cette objectivité de l'homme qui ne se montre pas, mais qui montre l'autre. Shakespeare est un miroir. C'est un miroir qui dit tout ce qui passe devant lui. Mais tout ce qui passe devant lui ne nous dit pas ce qu'est le miroir, ce qu'est Shakespeare. Hamlet est, comme Lear, un homme qui a perdu sa balance, un homme en proie à de terribles oscillations qui le rejette d'une extrémité de son âme à l'autre. Être ou ne pas être, murmure-t-il, et il reste là, debout, entre rien et tout. Et ceci constitue peut-être un des aspects, mais un aspect frénétique, un des aspects Montaigne d'Hamlet, dans la mesure où Montaigne est le père du doute moderne, où il annonce Proust perdu dans la forêt des possibles, Monterland victime de la loi d'alternance, Pirandello abandonnant à chacun sa vérité, et tant d'autres personnages d'aujourd'hui en quête de leur propre moi. Comme tout ceci, Hamlet est un homme qui, au moment d'agir, se met à monologuer, se demande « Que sais-je ? Que suis-je ? Que puis-je ?» Shakespeare, qui a exprimé toute la Renaissance, ses affirmations violentes comme ses longues hésitations, avait lu Montaigne. On a retrouvé un exemplaire des essais qui porte sa signature et qui est annoté de sa main. D'autre part, il y a dans cette comédie féerique La Tempête, qui constitue son testament, un passage sans grand intérêt, il est vrai, mais qui est textuellement repris, reproduit de Montaigne. Eh bien, La Tempête est aux antipodes de Hamlet, comme Montaigne, d'une certaine façon, est aux antipodes de Pascal. Cependant, le personnage principal de La Tempête, Prospero, duc légitime de Milan, s'apparente à Hamlet. Tous deux sont princes, mais tous deux sont aussi sans aucune vocation pour ce métier. La seule souveraineté qui les tente est la souveraineté de l'esprit. Le sceptre leur pèse. Hamlet veut retourner à ses chères études, à Wittenberg. Prospero y retourne à sa façon. Mais tous deux ont à leur côté une sorte de Macbeth qui les rappelle vers l'action. Il y a à côté d'Hamlet son oncle Clodius, le roi, qui a tué son propre frère pour accéder au trône. Et à côté de Prospero, il y a Antonio, l'usurpateur, son frère. Et ainsi, ces deux méditatifs, ces deux hommes d'études, ces deux êtres intérieurs dont le royaume n'est pas de ce monde, sont flanqués de personnages accrochés aux royautés terrestres. Et ces terrestres rappellent ici-bas ces hommes d'ailleurs. On peut se demander si Shakespeare, ceci est une grande question qui restera un grand point d'interrogation, mais enfin on peut se demander si Shakespeare ne s'est pas peint lui-même dans ces deux personnages, les plus troublants peut-être, les plus personnels de son œuvre, Hamlet et Prospero. Leur voix, en effet, ne résonne pas comme celle de Shylock, de Macbeth, de Coriolan, d'Othello, ni de tous ces autres personnages qui tous, certes, sont vus avec acuité, en profondeur, mais malgré tout d'une façon objective, de l'extérieur, de haut, comme on verrait un puits ou une oubliette en se penchant dessus. La voix d'Hamlet et de Prospero ne vient ni du dehors, ni de loin. Elle est toute proche, elle est toute intérieure. Il semble cette fois-ci entendre Shakespeare lui-même, en personne, exprimer ses propres pensées, révéler son propre drame. Shakespeare, semble-t-il, a dû penser avec Hamlet qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark. Il a voulu lui aussi quitter ce royaume, quitter l'action, aller à Wittemberg. Mais il n'a pu. Et la grotte de Prospero, l'île perdue bien loin du duché de Milan, Ariel et Caliban étant à ses ordres, on devine que ce dut être là le plus beau rêve de Shakespeare lui-même. On peut même se demander si Hamlet et Prospero ne confirment pas l'hypothèse selon laquelle Shakespeare aurait été quelque duc ou quelque comte, plus épris des choses de l'esprit que des vanités mondaines, et qui, se cachant sous le monde d'intrigues, de meurtres, de colère, sous le nom de quelque obscur cabotin, aurait peint le monde d'intrigues, de meurtres et de colère et de bouffonnerie au milieu duquel, bien malgré lui, il aurait vécu. Ainsi s'expliquerait la psychologie d'abdication, la psychologie démissionnaire d'Hamlet et de Prospero. Quoi qu'il en soit, Hamlet et Prospero, en bien des points, se ressemblent comme des frères. Et toutefois, par d'autres côtés, ils s'opposent. Hamlet est déchiré. Il est tragique. Il ne peut s'arracher de ce maudit Danemark qu'il a en horreur. D'où cette folie furieuse qui s'empare de lui. Il a commencé par feindre la folie, mais comme dit un psychologue moderne, on ne simule que ce qu'on est. Et Hamlet est comme une roue qui tourne autour d'un moyeu de folie. Folie contagieuse qui atteindra aussi Ophélie et qui la mènera au suicide. Cette jeune femme parée de fleurs et qui chante d'une voix haute avant de descendre, visage lunaire au fil du ruisseau, va rejoindre d'autres folies shakespeariennes, celle de Gloucester, qui rêve lui aussi de noyade, celle de Lear, comme Ophélie, fantastiquement couronnée de fleurs, et tous, leur folie leur vient de ce qu'ils ont écouté des ombres, des fantômes, des voix, de ce qu'ils se sont séparés du réel et de ce qui est le plus réel au monde, eux-mêmes, de ce que, comme le dit Hugo, leur moi s'est absenté et les a laissés là. Folie contagieuse, disais-je, non seulement contagieuse autour d'Hamlet, mais en lui-même. Il semble qu'il se prenne à son propre jeu, qu'il soit happé par ce tourbillon de cette folie d'abord feinte, puis réelle. Ainsi, le Henri IV de Pirandello, qui lui aussi joue la comédie jusqu'au crime, et dont on ne saura jamais dans quelle mesure il vit sa folie et dans quelle mesure il la simule. Eh bien, tout ceci est aux antipodes de Prospero. L'île de Prospero ressemble peut-être au début à la lande du roi Lear ou à la terrasse d'Elseneur. Il y souffle aussi un étrange vent d'inconscience. C'est une île folle où, semble-t-il, personne ne voit clair, où chacun titube. Quand le naufragé Trinculo y aborde et qu'il n'y a vu que trois personnes qui toutes trois étaient ivres, il dit « la folie de cette île ». Il paraît qu'il y a tout juste 5 personnes dessus. En voici 3, si les autres sont aussi esservelés, l'état titube. Eh bien, Trinculo se trompe. L'état ne titube pas. C'est que sur l'île, il y a un homme qui n'est ni ivre, ni folle, c'est Prospero. Toute l'île, tous ses habitants, Caliban, Ariel, Miranda, les naufragés, gravitent autour de Prospero, comme Claudius, la reine, Ophélie, le revenant, gravitent autour de Hamlet. Mais à l'encontre d'Hamlet, Prospero est un moyeu de sagesse. c'est que Hamlet est faible ou Prospero est fort. Le fantôme, Clodius, la reine, Ophélie, ont entraîné Hamlet loin de Wittemberg, dans leur royaume à eux, en Danemark. Et s'il tue, c'est un peu comme un gibier affolé, un gibier traqué, cerné, qui veut briser, dans un coup de rage, dans un coup de désespoir, le cercle infernal qui s'est forgé autour de lui. Prospero, par contre, n'est nullement rivé à son duché. Il a abdiqué, d'abord. Ou du moins, il a remis la direction de son duché à son frère, pour pouvoir se consacrer à la magie. « Pour moi, pauvre homme, explique-t-il, ma bibliothèque m'était un suffisant duché. » Mais là encore, sa présence gênait. Son frère conspire, le chasse. On le dépose dans une barque avec sa fille Miranda et la tempête les entraîne tous deux dans une île inconnue. En réalité, Prospero réussit là où Hamlet avait échoué. Prospero est totalement délivré de son duché. Il jouit des délices de l'exil. Dans cette île solitaire où il commande à un monstre, Caliban, et à un esprit prisonnier, Ariel, seul être humain avec sa fille Miranda, il poursuit dans la paix la plus profonde cette vie de pensée, de méditation, de découverte du monde et de soi-même qu'il avait commencé gauchement dans sa bibliothèque ducale. Mais ici, il n'a plus à se défendre des autres ni de lui-même. Ici, il est seul. Ici, il jouit de ce splendide isolement qui semble avoir été si souvent le rêve le plus cher de tout Anglais. Nous trois, dit une chanson anglaise, moi, mon ombre et mon écho. Voilà tout le monde de Shakespeare. Au sommet de ce monde, Shakespeare place un homme, un seul, qui n'est peut-être bien que lui-même. Un homme qui domine cette mêlée, Prospero. Unique représentant de l'ordre, de la maîtrise, de l'oubli de soi. Dans ce monde pareil aux éléments déchaînés, ce duc magicien qui sait mettre un frein à la fureur des flots rend un son insolite dans l'œuvre shakespearienne. On oserait dire un son chrétien. Le christianisme a vraiment l'air bien éloigné de cet esprit à goût de néant. Prospero fait plutôt penser à quelques solitaires qui, comme lui, annonce une certaine ère du surhomme. Il fait songer à Léonard de Vinci, au Faust de Goethe, au Zarathustra de Nietzsche. Comme chacun de ceux-ci, il nourrit le rêve de dépasser les frontières de l'homme, d'être plus que lui-même, de maîtriser les éléments. Mais le livre à peine ouvert, comme Faust encore, le livre magique, il le referme, il le jette au plus profond de la mer. Pourquoi ? Pourquoi brise-t-il sa baguette ? Ce geste signifie-t-il que là aussi, il n'a rencontré qu'illusion et fumée ? On pourrait le croire. Après avoir dit adieu à Ariel, après avoir pardonné à l'usurpateur, après avoir passé, est-ce 20 ans, est-ce 1 heure, on ne sait, dans la grotte enchantée, il regagne son duché. L'usurpateur lui rend son pouvoir. Peut-être, peut-être va-t-il l'exercer. Quels sont les sentiments de Prospero rentrant à Milan ? Shakespeare se tait sur ce point. Peut-on l'imaginer et en dit adieu à ses rêves et ne pensant plus qu'à accepter ses limites humaines, prêt à se dire heureux comme le Faust de Goethe encore, s'il parvient à assécher un marais, à y établir quelques fermes, quelques prairies. Peut-être que oui, peut-être que non. Il se peut en effet que Prospero, sur la fin de sa vie, ne soit plus rien qu'un homme qui se croise les bras. Un contemplatif à l'état pur. Voilà ce que pourrait signifier le livre qu'il jette à la mer, la baguette qu'il brise et enterre. Déjà bien avant cela, il avait en quelque sorte brisé son sceptre. Au fond, Prospero a-t-il jamais été autre chose qu'un homme qui gravit les paliers de ce farniente supérieur qu'enseignent toutes les hautes sagesses, toutes les mystiques, et dont le double nom est dépouillement et contemplation. Préoccupe-toi de ne rien faire, alors toutes choses viendront à toi, dit un proverbe chinois. Ce cercle d'agités autour de Prospero, c'est le cercle des êtres et des choses qui viennent à celui qui se préoccupe de ne rien faire, qui contemple et qui songe. Il y a sans doute du moine en Prospero, ou du moins de l'ermite, mais c'est un ermite dont la religion solitaire et enveloppée de magie nous demeure quelque peu fermée. Magie noire, magie blanche, nous ne savons. Prospero s'enfonce dans la brume. Prospero ou Shakespeare, il semble soudain que les deux ne font plus qu'un. La tempête, il ne faut pas l'oublier, est la dernière œuvre de Shakespeare. Prospero évoquant pour la dernière fois les esprits, puis les congédiant, jetant son livre au flot, brisant sa baguette de mage, Prospero, n'est-ce pas Shakespeare, déposant la plume et se détachant de ses songes. Cette pièce testament, plus que toutes les autres, est cernée par un océan de questions. Prospero nous quitte, plus mystérieux que jamais. Qu'avons-nous saisi de son âme? Tout ce que nous savons, c'est qu'il a pardonné et qu'il se dépouille. Nous devinons aussi qu'il ne dit adieu à Ariel, à sa grotte, à son île, qu'avec un serment de cœur. À cette heure où il regagne son duché, qu'il nous semble dominer de haut ses frères, les hommes, ce duc, insensible aux honneurs, ce mage qui renonce à la magie. Vers quelle expérience nouvelle, vers quel avatar, vers quel dépouillement plus complet s'en va-t-il? C'est là une toute autre histoire que Shakespeare n'a pas cru devoir nous raconter, mais que j'aimerais peut-être vous raconter un jour.
C'était Les Grandes Conférences, le secret de Shakespeare, par Roger Bodard de l'Académie Royale de Belgique. Première diffusion sur France Culture le 4 mai 1965. Vous pourrez réécouter cette conférence en ligne durant 1000 jours ou la télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.